Bonjour et bienvenue, vous écoutez Radio FMR. Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Comment vas-tu?
Parfaitement, un peu chaud mais ça va.
La date, si je me trompe, c'est samedi 3 septembre.
Ouais,
c'est la rentrée, il fait beau, il fait chaud, vous écoutez la radio FMR, la poubelle de radio bien sûr. Comme tous les samedis, nous ouvrons les magazines, suppléments, week-end, BD, cinéma, télé qui fait sa rentrée, suivi du cahier du sport et à partir de 15h du mix avec Zarma Farai, c'est du reggae jusqu'à 17h, suivi de Vie d'ordure, du punk avec Vomi, Rognon et plein d'autres cochonneries qui vont rester sur la table jusqu'à 18h30, à 20h reprise des programmes avec Last Hétéro Experience, à 21h30 Liquid Sky et de 23h jusqu'à 5h du mat, Breakbeat Experience The Jungle. Ouais, ça va, hein. Ouais, comme quoi il tire un peu loin ce jingle là, je pense.
Non, mais il est parfait.
Hein, tu es sûr?
Ouais, on va démarrer une bonne saison.
Alors, en tout cas, aujourd'hui c'est une spéciale Apple Seed. Et vu que c'est la rentrée, on se fait un apéro alors.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio?
Toujours pas.
Hein. Ouais, toujours pas. Hein. Non, tu es sûr? Ce serait méchant quand même envers les copains.
Bon, allez!
Oui, on met un peu l'ambiance là.
T'as mis quoi comme intro?
Alors, devine le morceau. Celui de Basement Jack, extrait de la bande originale du film, donc dont on va parler d'ici une demi-heure à peu près. On n'a pas fait le planning prévisionnel comme d'habitude. Ça va être l'impro la plus totale. Là. Tell me, is life just a playground? Figure the real deal, honey, and someone will always look out for you.
Good luck.
Alors je me suis planté, c'est pas extrait de la bande originale du film. Elle est dans le bande originale du film, dans le double CD, mais le double CD n'est pas encore sorti en France. Je crois que c'est encore un des effets de la sortie technique.
On en parlera plus tard en quoi ça consiste.
Voilà, donc en fait c'est extrait de l'album Quiche Cache. Ah, je dis ça parce qu'il y a encore l'assassin qui va me tomber dessus en disant ouais. Pirater des CD, trucs à la con, tout. Non, pas du tout. Alors je vous dis pas, c'est un petit peu pénible parce qu'ils ont changé le matériel, j'étais pas là la semaine dernière en plus, donc s'il le faut ça s'est fait dans mon dos. Et le nouveau matos, assez évidemment comme d'habitude à Radio FMR, a ses petites particularités, ce qui fait qu'avec 3 lecteurs CD on devrait en avoir environ un qui tourne. Donc faire un mix continu avec ça, je vous promets, c'est un petit peu galère.
Non mais attends, mais bon, c'est pas une raison, avant c'était le micro, maintenant c'est le lecteur, non mais là t'exagères. Hein.
Non, c'était pas le micro, c'était le pied micro.
Voilà.
Ouais, voilà. Enfin bon, la semaine dernière, donc, nous étions pas là, il va falloir expliquer pourquoi. Et hey, qu'est-ce qu'il me fout lui, ce con? Je sais pas dans quoi il part, ce lecteur...
Bon.
Voilà,
c'est pas
ça, non, ça va beaucoup mieux là maintenant.
Ah ouais, donc, je on entend une troisième voix. Je voulais peut-être annoncer JB à l'antenne quand même.
Et ça faisait bien bike. Hein.
Ouh.
Je te rassure, tu fais pas partie de la nouvelle saison, hein. Tu es viré.
C'est bien, j'y compte bien, pas de problème.
Thomas, au fait, la fiche.
Quelle fiche? Ah oui, la fiche.
Ah oh, mince! Ah, j'ai encore oublié. Bon, il y a une réunion de rentrée lundi. D'ailleurs, à ce qui paraît, ils vont changer le site de la radio. Donc, on va pouvoir dire le nom du site de la radio au lieu de donner mon site.
Ah, ben ça, c'est pratique, tiens.
www.radio-fmr.net. Alors, le tiret en question, qui est pas de confusion, c'est pas l'underscore, c'est le moins. Vous avez, c'est pas la touche 6, c'est la touche 8. Donc, vous retenez bien. Non,
oui, c'est le tiret du haut, quoi.
C'est ouais,
voilà.
On l'a refait?
Non. Okay. D'accord, voilà. La semaine dernière, nous étions pas là. Thomas, je ne sais pas ce que tu faisais de ton côté.
Je dormais.
Tu dormais, d'accord.
C'est bon, une très bonne idée.
Ah, c'était pas une mauvaise idée, ouais. Moi, je suis désolé. J'étais tout simplement.
Alors, attends, il nous montre son t-shirt.
Marine et Olivier se sont mariés et j'y étais.
Ah, d'accord. Ah.
Donc voilà, donc je tiens à saluer un de mes vieux copains et aussi la fille qui sur un site commercial avait développé la partie BD que j'ai animée pendant 3 ans. Donc voilà, donc Marine et Olivier. Tous mes vœux de bonheur et tout ça, et puis beaucoup de plaisir. Enfin, c'est tout le mal que je leur souhaite. Et puis voilà. Et d'ailleurs, j'ai appris une mauvaise nouvelle avant-hier, c'est le décès, la disparition de Flappy, qui était le programmeur musical de Radio Balade. On connaissait bien Radio FMR parce que c'était le grand copain de Patrick Chabouté. Patrick Chabouté, lui aussi, donc, est disparu maintenant depuis 3 ans. Et c'était notre docteur rock à nous, celui qui nous a tout appris au niveau musical. Bande de jeunes absolument incapables de faire la différence.
T'as
entre.
Vu, il a encore réussi à mettre le mot chabouté dans son émission.
Ça va vous jouer au buzzword? Jouer au l'auto-business, c'est ça les mots qu'il va citer dans le... C'est ça, sympa, merci. Enfin bon, on va parler de manifestation qui a lieu donc ce week-end, demain, dimanche, à partir de 17h, c'est à la place des Tiercerettes. C'est quand vous êtes sur la place Arnaud Bernard, c'est l'une des prolongations, c'est la rue qui en fait...
C'est la place où il y a le Bruegel ou où il y a le Filacon par exemple, pour ne pas dénommer.
Oui, donc et où il y a aussi une épicerie de nuit, mais JB a d'autres références par rapport à moi.
Ah oui, l'esquinade.
Voilà, à peu près. Donc, sachez donc qu'il y a une conversation socratique organisée par le comité de quartier, le carrefour culturel Arnaud Bernard. Il s'agit en fait d'une conversation sur le montage d'une AMAP. Alors, une AMAP, c'est un moyen de distribution de produits de l'agriculture. Qui en fait est basé sur un abonnement, c'est-à-dire vous payez en début d'année et le paysan va vous amener ce qui sort de son potager au fur et à mesure. C'est très intéressant si vous êtes plutôt si vous ne vivez pas seul, parce que c'est minimum pour 2-3 personnes en général ce qu'ils vous livrent, et si vous avez un gros frigo, c'est-à-dire moi j'en suis exclu des deux côtés, c'est un peu dommage, mais en soi les AMAP c'est très 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 intéressant, ben primo parce que c'est une forme alternative de distribution par rapport à l'hégémonie effectivement des supermarchés, Patin Couffin et tout le toutim, mais surtout c'est une manière de soutenir une certaine forme d'agriculture parce que tout simplement ben grâce à ça les paysans ayant supprimé tous les intermédiaires vivent un peu mieux leurs conditions que dans la plupart des cas.
J'ai vu.
Excusez-moi.
On a un Telex.
D'accord. Bon ben, j'envoie le jingle. And now, the news. Radio FMR, les infos vous ont présenté par Thomas.
Madame.
Attends.
Madame, monsieur, bonjour. Titre principal de ce flash, ce drame de la langue française. Un producteur d'une émission sur la culture a fait un sujet sur l'agriculture.
Ah, je me disais aussi.
Et maintenant, la météo.
Chaud, très chaud pour tes fesses. Tu continues à me ridiculiser comme ça en public. Je te promets, Thomas, ça va pas se passer comme ça. La revue de presse,
c'est quoi
plaît.
La météo?
Chaud à très chaud pour ses fesses.
D'accord. Oui. Me double me là.
Alors si je vous dis qu'Edika se fait prépublier dans un magazine pour frustrés masculins qui adorent les filles avec des gros pare-chocs à l'avant et des voitures avec des gros nibards à l'arrière.
Maxi.
Ouais, enfin bon, bref.
Score.
En tout cas, il en a honte. Edika et tout le monde s'en fout. Et puis voilà, Zou, va pas faire de pub. D'un autre côté, Métal Hurlant, le livre, 30 ans après la sortie du premier Métal Hurlant qui était en janvier 1975, et ben en décembre, on aura donc l'histoire de Métal Hurlant qui sera présentée dans un gros bouquin. En novembre, il va sortir. Donc l'histoire de Métal Hurlant, de la fondation du magazine en 75 à sa disparition en 87, sa reformation après il y a environ 2 ans, la suite aux États-Unis, les 2 films d'animation qui sont sortis et plein d'autres choses. Et alors, bizarrement, moi je m'attendais à ce que ça soit Jean-Pierre Dionnet qui fasse la notice, qui aurait semblé totalement logique. Et Jean-Pierre Dionnet, c'est l'une des 3 personnes qui a fondé le magazine. Mm-hmm. On peut dire aussi ce qu'il fait à côté.
Bah, il présente cinéma de quartier sur Canal+, et puis il dirige une collection de cinéma asiatique également en DVD.
Surtout coréen, hein.
Ouais, bon, ouais. Hongkongais, pas mal de Hongkongais aussi. Hein.
Hongkongais, d'accord. Et malheureusement, ce n'est pas lui qui le fait, et c'est un peu dommage. C'est Gilles Poussin, qui est le fondateur de la revue Ogun, qui en parle, et Christian Marmonnier, qui est un collègue de l'association et critique de la bande dessinée, et qui intervient sur Radio Libertaire à Paris, où il fait une émission le samedi après-midi. De 15h à 17h30, je dis ça pour ceux qui nous écoutent en podcast et qui sont sur Paris. Christian Marmonnier est un très bon journaliste, mais je pense que ça aurait été vraiment intéressant, justement, que ça soit pour le coup Dionnet ou un autre. Bon, ben voilà. En tout cas, avec Marmonnier, je pense que le bouquin est, j'espère, entre de bonnes mains pour l'écriture. Enfin, voilà. Ça reste à voir.
Allez, si on parle de cinéma un peu avec le nouveau numéro de Première, toujours à 2€, et en couverture exclusive, Besson et Jamel, le tournage top secret.
Non, voilà. Arrête, tu me fais rire.
Donc là, il s'agit d'un numéro spécial qui montre les premières photos du tournage.
Une grosse tête dans un petit corps, une grosse tête dans un gros corps.
Non, franchement, t'es méchant. Hein.
Ouais, t'es très méchant.
Voilà. Donc,
ah oui, c'est vrai, toi, tu connais très bien Jamel. En DVD.
Oui. Je trouve que c'est très sympa.
Bon, s'il vous plaît, ma chronique. On s'en fout. La revue de presse. Le nouveau film de Besson qui sortira en décembre prochain avec donc Jamel Debbouze et aussi Gilbert Melki. Il s'agit d'un film en noir et blanc. D'ailleurs, c'est un retour aux sources pour Besson qui avait réalisé, on s'en souvient, son premier film, Le Dernier Combat, également en noir et blanc. Et ce film s'appelle Angel-A. Ça fait Angela. C'est marrant. Voilà.
Oui. Angela, quand je pense à toi. Oui, voilà. Bon, d'accord, ok, donc en clair, Première, de toute façon, c'est une revue qu'on apprécie tout simplement par le niveau des critiques, qui est quand même pas trop mauvais. À la différence d'Animeland, qui a fait un gros dossier sur Apple Seed, et on va en reparler encore une fois, j'annonce encore une fois de plus le film, mais bon, ils se sont bien viandés, assez connement, je vais dire, il y a eu un flagrant délit de non-lecture du bouquin. Je veux dire, lecture approfondie, c'est bien dommage. En tout cas, Animeland va changer de couverture et de maquette et d'orientation. Alors, la maquette, c'est celle qui est actuellement sur le site web et on peut pas dire que ça soit vraiment joli. Le nouveau logo, je préfère l'ancien, hein, celui-ci, il y est depuis les débuts, depuis qu'ils sont en fanzine, c'est-à-dire maintenant depuis 15 ans. Et l'orientation, c'est plus d'animation japonaise et de manga japonais et beaucoup moins d'animation internationale.
C'est ça qui est dommage, justement.
Parce qu'il nous faisait découvrir plein de choses. Alors là, j'avoue, je suis vraiment déçu. Donc on attend de voir, c'est en kiosque à partir de lundi. On en reparlera la semaine prochaine.
C'est si quoi en couverture le nouveau?
Le
nouveau numéro, c'est quoi?
Non, je l'ai pas.
Ah, tu l'as pas.
Non, mais j'ai
regardé sur le mail. Site internet, il a vu la
fiche. Non, j'ai reçu le mail.
Ah, t'as reçu le mail.
Ouais, c'est plus simple.
Bon, donc il a vu qu'il y avait une nouvelle maquette, un nouveau design, il est pas trop content.
Enfin, non, il communique dessus, en long, en large, en travers, et puis tout le traviole, et puis voilà, point. Enfin, et puis on va terminer là, en revue de presse, on va attaquer les sorties bande dessinée, tranquillement, il y en a une petite tartine, et je tiens à signaler aussi que l'émission... toutes les archives, toutes les émissions sont enregistrées, sont dispo depuis le départ. C'était
depuis fin septembre 2004.
Tu te rends compte, Thomas?
Tout ce chemin parcouru.
39 émissions.
Pas 42
hein? Non, toujours pas.
Donc et... là, c'est la 40e.
Non, c'est la 39e.
Ah. Bon, mais je vois pas ça la semaine prochaine.
C'est ça. Ouais. Puis quoi encore? Donc, on peut nous écouter sur ce qu'on appelle en balado diffusé, c'est-à-dire en podcast. Si je tiens absolument à faire la pub pour une firme d'ordinateur blanc et qui coûte la peau des fesses et que voilà. Et qui font surtout des super petits baladeurs, super design. Donc, dans le dernier iTunes, voilà. Vous allez sur la page de l'émission et vous pouvez nous écouter par abonnement, comme ça. Sans être scotché obligatoirement à Radio FMR, ce qui est quand même plus sympa, plus tranquille. Et puis voilà.
Là, tu es en train d'encourager les gens à écouter ton émission sans passer par Radio FMR, en fait.
Non, c'est non, si j'avais
écouté l'émission en podcast.
Non, mais surtout de voter pour moi, podcast au pluriel. podcasts.com. Et vous votez pour Dor, Dor, voilà.
C'est point en français, mais bon, c'est pas grave.
Bon, d'accord, ok.
Bon, TBD.
Oui, non, mais avant ça, JB va peut-être... introduire un premier morceau.
C'était quoi déjà?
C'était Interpol, c'est pas mal du tout. J'ai trouvé ça cet été et je trouve ça assez frais et sympathique.
J'aurais dû inverser ça, avec les Pixies.
Allez, si tu veux.
Bon, d'accord, ok, c'est les Pixies donc à la place.
Je crois qu'il a fait.
C'est pas grave, je préfère le morceau d'Interpol, je le garde comme la cerise sur le gâteau.
Ah, oui, mais surtout pour Apple Seed.
Allez, c'est parti.
Il va falloir que tu désannonces, JB. Donc le morceau en question, les Pixies, il a une particularité.
C'est que justement, il a été proposé que via Internet.
D'accord, ok. Sur le site officiel des Pixies
Si je me souviens bien, ouais.
D'accord, ok, donc tranquille. Et Zou, Thomas, tu pourrais préparer un peu pour la suite par rapport oui. à... Non. Bon, d'accord, il suit pas.
Non.
Bon, c'est une émission totalement organisée,
ah,
comme
oui,
vous
oui,
pouvez
oui, oui, j'adore, tu vois, quand il y a trop de préparation, ça va pas du tout. Il faut peut-être que tu ailles dire quelque chose à la, là.
Ouais, je vais aller ailleurs, alors.
Oui, merci. Merci. Bon, mais... JB, on est oui. entre nous.
Tous les deux.
Tu es un gros fan de BD. Si je te dis un gamin absolument insolent, imbuvable, qui vit dans son univers à lui.
Oui, j'ai vu la couve. Je sais que ça sort dans un mois, c'est ça. C'est le nom de.
Non,
de...
c'est déjà sorti.
C'est déjà sorti.
Donc il s'agit du nouveau Kid Paddle.
Exactement, le Sad Ghost au Sad Joystick.
Alors Kid Paddle, ben c'est un gamin de 12 ans.
À peu près.
Qui est un peu trop porté sur les jeux vidéo. Son père est seul pour l'élever. Il a une petite sœur qui s'amuse à massacrer, du moins surtout les jouets.
Oui.
Des jeux vidéo, en fait, tu en voilà un peu partout dans la maison. Et puis aussi, ben, à côté, une imagination un peu trop débordante. Et deux copains, une copine maintenant, qui sont absolument aussi disjonctés que lui. C'est même assez, on va dire, maladif. Le gros problème, mais alors l'énorme problème, c'est que Midam a dit lors de la soirée de lancement justement du dernier Kid Paddle, puisqu'ils ont fait les choses en grand à Bruxelles pour le lancer, il a dit c'est de plus en plus dur de trouver des sketchs originaux. Et effectivement, les aventures de Kid, Horace et Doc sont décalées et complètement, je vais dire, usées, tout simplement à cause de l'âge avancé de leur jeu et ensuite parce que on a l'impression que c'est des jeux qui ont 15 ans. Ben c'est tout à fait ça, puisque Midam n'est absolument pas un gamer. Il ne s'est intéressé dans les jeux vidéo que dans le cadre d'un partenariat pour le premier tome. Et faute de 109, le sang recyclé a moins de goût. C'est un peu dommage pour une série qui est censée avoir plein d'hémoglobine en pixels. Moi j'ai trouvé ça vraiment triste. Voilà quoi. Oui, quoi ?
Non, je te taxe pas cet album.
Ah, pourquoi ? Parce que je l'ai descendu ?
Ouais.
Ouais, tu l'as fait exprès, non ?
Ah, par contre, du sport, il veut bien te le taxer, par contre.
Attends. Oui. Non, il est en train de s'installer, donc on va le laisser tranquille.
Non, je vais te la taxer parce que mon fils, depuis qu'elle est dans les kiosques, il me la réclame. Alors bon, je trouvais que 8,50 c'était un peu cher de la BD, là, il n'y a pas de problème.
Ça va, Duce, hein ?
Ouais.
Ouais, on est rentré ? On applaudit dans ton retour. T'as passé de bonnes vacances ?
Ouais. Laisse-moi 2 minutes pour m'installer quand
attends,
même.
Attends. En notre absence, il a réussi quand même à démarrer en retard. De 3 minutes. Mais démarrer en retard quand même, j'étais à l'écoute sur le chemin du sport. Ne m'étonnera toujours, hein, il n'y a pas d'autre terme. Et c'est un peu particulier. Enfin bon. À côté.
Bon, sinon du sport pendant que tu t'installes, j'espère que t'es en forme pour redémarrer hein, cette belle saison là. D'ailleurs, je vais te rendre les trucs que tu m'as passé, tu sais, avant de partir en vacances.
Ah, ouais,
donc
ouais,
déjà,
ouais.
T'as la VHS là, de Savio Rose Soul, je te la rends.
Ouais.
Je te la rends,
c'est
tiens.
C'est pas mal, hein.
Ouais.
Hein,
moi, je trouve que les bastons, ça tabasse quand même. Hein, avec les...
Ouais, mais bon, c'est pas les bastons. Hein, les...
Oui, et puis t'as Itamui qui est toujours.
Ouais, c'était un manga, ça, d'après ce que j'ai compris. Hein. Mm-hmm. C'est tiré d'un manga, ça.
Ouais. Et
après, bon, là, j'ai les HK aussi, les magazines. Bon, alors, là, le spécial Tsui Arc, là, on va.
C'était vraiment ouais, mais t'auras quand même ceux que je t'ai pas.
Eh, c'est fini un peu ces conneries,
si vous... pas, et puis je te
ah, d'accord, mais génial. Ouais. Et par contre, j'ai
tu
vu
me
qu'il y
a. Les numéros.
Ouais,
on a une émission là, on est en direct.
J'ai vu qu'il y avait un poster aussi dedans.
Non, c'est Xavier.
Le poster, tu le laisses dedans.
Ah, bon, d'accord.
C'est une valeur ajoutée.
Ok, bon, alors tiens, voilà les HK, je te les passe.
Je peux te les emprunter, moi, parce que moi, ça m'intéresse, c'est Tsuyark là.
Bon, s'il vous plaît.
Par contre, j'ai toujours le DVD de la Vierge de Nuremberg. Et je te le rendrai en même temps que Sergent Kabukiman là que tu m'as passé.
Ah ouais, ok.
Alors par contre, moi je peux te prêter ça. C'est un DVD qui s'appelle Gozu, Takashi Miike. C'est le
Mickey,
c'est,
ouais, d'accord, c'est le Jobard.
Oui, oui.
Ouais.
Et c'est le film où il y a le Yakuza qui tabasse un caniche parce qu'il croit qu'il est anti-Yakuza. Ah, c'est, ouais, il est super
là,
rigolo celui-là.
Là, c'est con, ma femme va pas être d'accord.
Bon, c'est que dans les 5 points même du film. Après,
bon, je veux pas savoir, on arrête de suite. Je rends du sport la biographie d'Edward Bunker qui est absolument excellente. D'ailleurs, c'est marrant, après avoir lu celle de Louise Brooks.
C'est pas vraiment une bio, hein.
C'est inventé, mais c'est très bon comme bio.
Non, ça c'est pas inventé, hein. Ça c'est.
C'est remanié, c'est
c'est romancé, on va dire, hein, c'est ça, c'est sa vie un petit peu, quelques épisodes de sa vie un peu romancés, voilà.
Parce que je suis en train de la lire et quand on voit des passages,
ça va déborder, là,
je me souviens quand il est 15 ans,
ça va déborder sévère. Bon, alors donc je voulais parler d'une des bandes dessinées qui est quand même la découverte pour moi et avec un peu de retard puisqu'elle est sortie en mai Bon, allez, je vais dire tout simplement, pour moi c'est le coup de cœur, c'est pour cette BD que je vais voter à la CBD. Je ne la prête pas. Il s'agit de Michel Falardeau, Mertonville. Le premier tome s'appelle Lydia, c'est aux éditions Paquet. Ça vient du Canada francophone et c'est l'album le plus étonnant que j'ai eu à lire d'un nouvel auteur depuis un an. C'est l'histoire de Lydia, qui est une lycéenne, donc dans une ville moyenne du Canada francophone, qui va rentrer en fac, ce qui signifie l'entrée dans l'âge adulte, l'émancipation, etc. Est élevée par un père, ex-militaire de carrière, qui n'a pas de mère et qui va enfin vivre. Enfin, elle n'a pas de mère, plus exactement, sa mère serait partie en mission humanitaire quelque part au Banzouk Jizistan. Son père n'a même pas été capable d'inventer un nom de lui trouver une destination absolument valable. Bref. Arrive le moment où Lydia, après avoir fait ses humanités, va rentrer donc en fac et doit décider de la section où elle veut rentrer. Ah, elle voudrait faire de l'art, mais malheureusement, son papa souhaite donc que sa fille se fasse protéger par des vrais mecs, pas par des lavettes. Comprendre qu'en art, pour lui, c'est que des minus. Lydia s'inscrit donc en art justice. J'ai dit justice et non droit. Ce qui est un détail qui a une importance, je vous rappelle donc que la BD en question est originaire du Canada, là où vient un certain Wolverine, et que à partir de là, on va aller de découverte en découverte avec elle. Une fois livrée elle-même entre la cité U, son nouveau rythme de vie, et surtout ses papiers amoureusement déchirés par son chat, qui a été dressé par son père pour déchirer tout le courrier, qui arrive par la boîte aux lettres, comme ça. Ah non, j'ai pas reçu la facture. Tellement plus simple. Et ben, elle va se rendre compte qu'une partie de ses profs ne correspondent pas exactement à la moyenne. Bon, dans une fac de lettres, vous allez me dire, ça n'a absolument rien d'étonnant. Il n'y a qu'à voir le Mirail. Excusez-moi. Mais là, vous allez vraiment vous prendre une claque, c'est à hurler de rire.
Non, on ne le montre pas du sport, cette BD, je l'attaque, c'est direct.
elle revient. En tout cas, l'étrangeté de l'histoire, le dessin particulier des personnages, le design très étonnant des décors par des grandes bandes colorées, et un très bon usage des narratifs. Vraiment, on a des surprises. Prenez seulement la première page, essayez de vous dire quelle est la personne qui parle en lisant les deux premières bandes. Et là, vraiment, on se dit, oui, il sait exploiter la bande dessinée, il le fait bien. Il en fait de sa BD une découverte permanente, avec un tempo qui peut sembler très lent. On se dit, justement, ça va me permettre de faire toute la découverte de la bande dessinée. Mais la densité du détail oblige à la relecture. Ça ne se voit pas du premier coup, évidemment, c'est une BD qui est mine de rien. Mais après, on est plongé dedans. Et moi, j'en suis à la 6e, 7e relecture. J'en suis fan, accro, grave. Et pour ça, je ne le prêterai pas. Thomas avait quelque chose à dire ?
Oui, je voulais te le taxer, moi.
Non.
Non, mais je te le laisse vraiment, parce que moi, franchement, le dessin, j'accroche pas du tout.
C'est vrai, c'est un look un peu manga et par endroit et trucs comme ça.
Avec des effets de Photoshop, mais une simplicité un peu affolante. Non, vraiment pas. Quoi.
Vraiment, tu serais surpris en la lisant, tu serais assez étonné justement. Mmh. Il y a plein de.
Mais moi je suis emballé, moi je veux bien te la prendre par contre. Ouh. Non ? Bon, il va craquer là.
N'insiste pas.
Bon.
Bien vieux, s'il te plaît, prends-la-moi ! Oui, c'est le deuxième plantage de Diff. Excusez-moi. On va continuer avec Jean-David Morvan au scénario et Philippe Bûcher aussi à la création de l'œuvre en question, mais dessinée par José Luis Munoera. Si je dis la plus forte vente de bande dessinée aux éditions Delcourt.
Navis.
Non.
L'autre là.
Siège. Voilà. Et Navis, et ben donc c'est le spin-off de la série Siège, c'est-à-dire la série dérivée, qui est plus destinée aux enfants par le graphisme de José Luis Manuera, qui est quelque chose assez mignon, assez kawaii et très très agréable à lire. Assez fun, très cartoon en fait, hein, de ce côté-là. Et donc c'est Navis qui est gamine, qui est élevée par le seul robot qui a pu survivre au crash sur cette planète qui ressemble à une jungle plus qu'à autre chose. Et donc eh ben, Navis a réussi à adopter une tigronne toute mignonne, toute petite, qui s'appelle Ouyo, qui va devenir un animal énorme en grandissant, puisqu'on la voit au tout début de la série Sillage. Et Navis, ben, elle veut apprendre les choses de la vie. Bon, quand je parle des choses de la vie, c'est les choses de comment la vie apparaît. Et qu'est-ce que c'est que l'amour ? Et qu'est-ce qui différencie les garçons des filles ? Bref, le miel, les abeilles, tout team. Bref, c'est plutôt gênant pour un robot d'arriver à expliquer ça à une gamine.
Xavier, on te donnera un cours à ce sujet. T'en
oui,
pas.
Merci, ça j'en doute pas. J'en ai eu plusieurs.
Et... ça a pas marché.
Elle va le découvrir, en fait, via la détresse d'un animal fabuleusement violent qui va l'éveiller. Une ondine à la beauté légendaire, une bête absolument superbe, légendaire, mais à la violence absolument ahurissante. La si frêle mais intrépide Navis. Est-ce qu'elle va réussir finalement à résoudre le dilemme de cette race maudite et à s'en faire une amie et finalement à aller par-delà les instincts de cette bête ? Jean-David Morvan nous fait découvrir un peu plus le bestiaire de la planète où a grandi Navis. Vous savez, la planète que l'on voit juste le premier tome de la série Sillage et qui de toute façon se fait flinguer, pour ce qui est du bestiaire, de l'écologie, relativement vite pour les besoins d'une race qui vient la coloniser. Le dessin de Munuera est parfait pour cette fausse comptine parce que ça peut sembler un truc pour enfants, mais c'est quand même... ça y va un peu sec, donc je recommanderais plutôt au-delà de 12 ans.
Au-delà de 12 ans ?
Ouais.
Et pourtant, c'est le grand prix du journal de Mickey, des lecteurs.
Oui, mais tu sais que le journal de Mickey a 60 ans, donc tu peux présumer de l'âge des lecteurs. Excusez-moi.
Mais, Xavier, t'es vieux aussi, quand même, depuis le temps. Il faut quand même te le faire réaliser que les goûts des jeunes de maintenant sont peut-être un petit peu plus crus que ceux que nous, on était il y a 20 ans.
Merde. Non, tu vas pas dire qu'ils aiment la Starac.
Eh ben, vu l'audience qu'il y a eu hier soir, j'ai des doutes pour te dire oui, ouais.
D'accord. Bon, donc je reviens là-dessus. Donc il s'agit de Navis, la spin-off de la série Sillage. C'est le deuxième tome, il s'appelle Giron Douce. C'est dans la collection Néopolis chez Delcourt. Donc spin-off de la série Sillage qui est plus qu'une série BD. C'est devenu quasiment une licence puisqu'ils ont 4 séries en tout au-dessus. Et Jean-David Morvan, lui, le scénariste, est parti pour décliner à mort. Et donc c'est José Luis Manuera qui fait le dessin.
Je te la prends. Hein.
Tu es sûr aussi. Que tu vas. T'as vu le volume de bouquin là que...
oh ouais, mais je vais te rendre des apple seeds pour ouais. Mettre un peu.
C'est eux, le studio machin là qui.
On va enchaîner toujours avec Jean-David Morvan au scénario et Bengal au dessin du sport. Préviens quand tu tiens ton micro. Cette émission est une vraie catastrophe.
Messieurs, mesdames, les auditrices, ça n'a toujours pas changé depuis des années.
Du sport est en train de faire des pieds et des mains pour que tu lui branches son micro là.
Non, pour qu'il tienne le sien. Enfin bon, je l'ai coupé. Donc c'est le deuxième tome de Mecha qui vient de sortir qui s'appelle Outside, toujours dans la collection Néopolis chez Delcourt. C'est toujours Jean-David Morvan qui est au scénario. Mais oui, mais c'est un scénariste qui est extrêmement prolifique. Et,
tu parlais des actions hein, de chez lui.
Bon, je lui coupe son micro parce qu'il m'énerve. Et dessin de Bengal à côté. Et donc, on revient dans cette histoire de la bataille entre les mechas du Levant et ceux du Couchant. Oui, parce qu'il s'agit ni plus ni moins qu'une histoire de gros robots qui se fight.
Censure !
Oui, ton micro est ouvert, mais bon, c'est merci. Parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on est toujours dans des histoires de gros robots qui se fight, vous savez, manière manga et tout le tout team. Et c'est l'histoire donc de la caporale Ninja et du lieutenant Enrique qui ont dû abandonner leur gigantesque robot de combat qui est HS, hein, c'est plus la peine, il se relèvera plus. pour explorer les ruines de la ville qui sont censées avoir défendu. En fait, c'est une ruine suite à la bataille en question, dont les habitants furent heureusement évacués. Du moins, ça, c'est la théorie. De leur univers de Japanimation aseptisé, ils vont se retrouver face à des survivants, des dégâts collatéraux. Et on ne peut pas dire qu'ils ont vraiment apprécié leur libération. Bref, cela va y aller plutôt sec. Ils vont se retrouver face à des situations de guerre, mais dans le genre à côté Beyrouth et l'Irak, c'est plutôt soft. Et surtout, se remettre en cause vis-à-vis de sa propre éducation et vis-à-vis de ce que l'on apprend à l'école militaire. C'est loin d'être inintéressant. Le seul regret que j'ai par rapport au premier tome, c'est que le dessin est nettement moins soigné. Le premier était très lisse, il était très fin, etc. Là, c'est du crayonné pur et dur. Et je me demande si cela n'est pas fait exprès. Justement, ce dessin jeté pour rajouter au désespoir des personnages par rapport au premier tome où c'était les preux chevaliers qui engoncaient leur gigantesque armure de 10 km de haut pour défendre une planète, et puis là tout d'un coup ils se retrouvent à poil, c'est quasiment le terme, c'est-à-dire ils ont rien, ils ont aucune arme dans un environnement particulièrement hostile. En tout cas, l'idée est absolument géniale. Outre la manière dont on montre les frappes chirurgicales au sol, je veux dire sur le terrain, c'est les flashbacks très courts de chaque personnage au moment où il est fauché par la mort. C'est justement ce qui lui fait prendre un comportement haineux. On voit justement le moment où, en 3-4 images, c'est très court, c'est très bien mis en scène. Le dessin de Bengal va très bien pour ça. Et Jean-David Morvan, il a eu une excellente idée. L'exploitation est millimétrée à la fois sur le concept, c'est-à-dire en fait des combats de robots, mais vu cette fois-ci du sol. Et primo, la narration de la bande dessinée, qu'une fois de plus, il montre qu'il sait scénariser, qu'il sait ce que c'est qu'une planche, qu'il sait ce que c'est qu'un découpage. Et là-dessus, on se prend une claque monumentale. C'est une très bonne idée. Là encore, Jean-David Morvan dépoussière la science-fiction avec brio, et moi, j'en suis absolument fan. C'est pas le bon morceau. Si, pardon. Puisque je vais parler de Tezuka, Osamu Tezuka,
le grand retour.
Il est mort en 89.
Oui, mais on en parle à chaque fois.
C'est le grand. Enfin, c'est considéré comme le dieu de la manga au Japon,
eh oui.
Et pas 14. C'est vraiment, il en a fait largement plus que Hergé et Franquin réunis pour la
Stakhanoviste de la production. Du
absolument
dessin.
Énorme. On en parle la semaine prochaine. Donc, juste pour vous dire que Metropolis est sorti chez Taifu Comics, ex. J'ai oublié. Enfin bon, Metropolis. Je vais te laisser le chroniquer. Juste une chose. En le lisant, vous allez découvrir l'évolution énorme qu'a subi la manga. On comprend d'un coup les origines, d'où viennent toutes les inspirations de la manga, uniquement en regardant les dessins. Le scénario est franchement complètement bancal, c'est pas ça qui est le plus intéressant, c'est le dessin lui-même, le graphisme, d'où il vient, et ce vers quoi le manga a complètement évolué depuis 60 ans. Là, tout d'un coup, on comprend beaucoup mieux les origines, on comprend mieux Eiji Matsumoto, tous les grands dessinateurs, pourquoi ils ont un certain style, pourquoi on dessine les personnages en manga d'une certaine manière. C'est loin d'être inintéressant. Metropolis chez Taifu Comics, la première œuvre, enfin la plus connue d'Osamu Tezuka, on en parlera la semaine prochaine. Sachez que si vous avez vu le film d'animation,
oui, réalisé par Rintaro,
l'histoire n'en est pas si proche que ça, mais en tout cas, vous allez vous prendre une claque monstrueuse.
Xavier.
Ouais. Ouais.
Une précision, le tome 3 de la biographie de Tezuka, c'est oui. le tome 3 qui va jusqu'à l'année 1975 et c'est déjà sorti. Pouvez-vous le procurer, on le chroniquera justement la semaine prochaine. Et cette partie
c'est
est consacrée
Carman, oui.
Au cinéma, à sa carrière dans le cinéma d'animation.
Alors c'est très amusant parce que je vais vous dire pourquoi j'ai souligné Casterman. Parce que donc la biographie de Tezuka sort chez Casterman. Casterman n'a publié aucun bouquin de Tezuka jusque-là. Les bandes dessinées sont sorties chez Glénat, chez Tonkam et maintenant chez Taifu. Bref, c'est au hasard le plus complet. Quand on connaît le volume énorme qu'a fait Tezuka, enfin, il y a à boire, à manger pour tous les éditeurs, on va dire. Dernière BD de cette chronique, un scénario de Laurent-Frédéric Bollet, un dessin de Guillaume Nicole. Shingeki, premier tome sur trois, puisqu'il s'agit d'une trilogie dans la collection du même nom chez Emmanuel Proust. Le premier tome s'appelle Son Excellence a des regrets. Shingeki, c'est une ville, actuellement, c'est la septième ville sainte de l'islam, une ville qui est en Éthiopie et qui est plutôt délaissée. Au 32e siècle, c'est l'une des 77 villes indépendantes où les 27 millions d'habitants sont régulièrement conscrits pour une guerre des tranchées qui s'enlise dans le désert contre Khartoum City. L'enjeu, le dernier lac d'eau douce sur Terre, une denrée devenue absolument introuvable dont les ersatz chimiques sont loin d'être aussi buvables que l'eau naturelle. Et parmi les hauts dignitaires de Shingeki, les quelques ex-dirigeants de la division H de l'alphabet, une brigade antiterroriste dans laquelle le député April et le général Lord March ont officié. Ils échangent, au moment où commence la bande dessinée, leurs souvenirs de Barbouze, mais surtout s'inquiètent de la disparition brutale de leurs ex-collègues, qui portent tous des noms de moi. Chose assez étonnante.
April, et à mon avis.
Eh oui. Donc,
tu veux dire le moi, le surmoi ?
Non, le moi.
Ah, le moi, d'accord.
M-O-I-S. La recherche feutrée d'un trait dans une ultime guerre qui ne fait que ramener des macabées par milliers, c'est pas inintéressant parce que on est un peu proche, je vais dire, d'Apple Sea, de la manga, par l'univers, sur plein de choses, mais surtout il y a ce dessin qui est tout en couleur directe, qui est très agréable, le dessin de Guillaume Nicole. On adhère pas. Moi je trouve que c'est pas inintéressant justement par l'ambiance qu'il arrive à mettre. C'est plutôt bien foutu, mais bon, il faut arriver à s'y plonger.
Des images texturées sur Photoshop auxquelles il ajoute des cernes noires par-dessus, moi j'adhère absolument pas. Mais
Laurent-Frédéric Bollet,
je l'ai pas lu.
Laurent-Frédéric Bollet, je sais qu'il y a trois personnes sur ce plateau, ça devrait tout de suite leur tilter de savoir qui c'est. En tout cas, il a été scénariste de bande dessinée, il a fait Apocalypse Mania chez Dargo, A des Grands Rivers. Il se complaît dans la science-fiction. Et le thème qu'il développe là, une guerre dans un futur très instable entre deux villes africaines pour le contrôle du dernier lac d'eau douce sur Terre, c'est plutôt intéressant. L'histoire est un peu malmenée par les flashbacks, les mises en abîme, enfin bref, les souvenirs dont il est question régulièrement, ça trouble le déroulement de l'histoire. C'est bien dommage parce que c'était pas loin d'être un bon album. Et qui c'est ici qui est Laurent-Frédéric Bollet ? Du sport ?
Pas moi.
Ton père peut-être, hein, Thomas ? Non ?
Non.
Non ? Du sport ?
Bah c'était un commentateur sportif à un moment, hein, c'est ça. Hein.
C'est ça, il a été le présentateur de Stade 2.
Sur la 2, ouais.
De
Stade 2,
93
ouais.
à 99.
Ah, alors attends.
Il c'est... a été sur...
Pierre Sled ?
Non. Non, non.
Non, non, plus jeune.
Beaucoup plus jeune.
Plus jeune. Christian Prudhomme. C'est la nouvelle génération qui est déjà ancienne.
Qui est déjà en scène. Il
Gérard
a commenté.
Ancienne.
Gérard Holtz.
Non. Gérard Holtz, c'est plus vieux.
Papy,
lui.
Papy Holtz, on dit.
Non. Non.
Pierre Salviac.
Je vais pas y arriver. Laurent-Frédéric Bollet, donc, a fait des commentaires sportifs de courses de Formule 1 pour Kiosk, pour Eurosport. Et actuellement, je crois qu'il est directeur d'antenne sur Motors TV. Et à côté, donc, il a cette activité de scénariste, de bande dessinée et aussi de romancier. C'est assez étonnant et en plus il a plutôt une bonne plume pour ça. Enfin, moi je trouve que c'est pas mal. Il a un bon départ.
Au premier abord, moi je trouve ça pas mal du tout comme bande dessinée. Je suis en train de la feuilleter.
Et oui, il faut pas s'attarder au dessin. C'est après que le dessin finalement se justifie.
Non, moi le dessin, je
par la patine.
Pas mal du tout. Bon, il est le crayon n'est pas fameux, mais il peut avec le tome 2 et tome 3 s'affiner. Je trouve que ça a pas l'air si mauvais par rapport à ce que tu m'as montré de Morvan et ça clique quoi.
Ah, t'es lourd. Laurent-Frédéric Bollet au scénario, Guillaume Nicole au dessin, son premier album d'ailleurs, il me semble. Shingeki, premier tome sur 3. Son excellence et des regrets, c'est dans la collection Trilogie chez Emmanuel Proust Édition. Et avant qu'on enchaîne pour décider qui c'est qu'on va enchaîner, on va tester mes animateurs. Alors on va faire un quiz très simple. Alors, je voudrais savoir, d'après vous, de quel film est extrait cette citation ? Tu as des couilles d'acier, mon pote. 1. Pacte avec un tueur. 2. Flash Gordon. 3. Superman et Wolverine s'enfilent comme des Grecs.
Réponse 1.
Non, c'est Thomas qui a gagné. Il a répondu plus vite que du sport. Donc il s'agit effectivement de best-seller de John Flynn avec James Wood et Brian Delaney. Et voilà. Et Thomas va gagner l'enchaînement puisqu'on va parler d'Apple Seed.
Mais il n'y a pas James Wood dans Apple Seed.
C'est vrai.
Thomas, tu sors.
D'accord. T'as pas un petit morceau là pour faire la respiration?
Oui, oui, mais c'est JB a annoncé, donc je l'ai fait mentir. Donc tu l'as découvert cet été?
Ouais, j'aime beaucoup et bon, vous me direz ce que vous en pensez.
D'accord, si vous écoutez Radio FMR, il est 12h45. Hein. Et oui, déjà. Je t'ai fait une transition, Thomas, aux petits oignons par rapport aux trois derniers bouquins. Mecha, oui. Metropolis, Chinguetti.
Eh oui, et les couilles d'acier aussi, tu l'as oublié.
Outre que, donc, on va y aller sévère avec un film qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Et d'ailleurs, je t'ai fait lire beaucoup de pages. Et encore, il te manque le GEB, le Godel et Sherbach, qui est un bouquin de 700 pages.
J'ai les 4 tomes, je sais qu'on fait pas de télé, mais voilà. Ils sont là.
Et Apple Seed, on va parler, outre que le film en question a fait une sortie technique, ce qui, à Toulouse, signifie dégoter une voiture pour aller dans un multiplex qui est à l'autre bout de la banlieue sensible, où l'expérience cinéma est particulièrement traumatisante. On peut dire en plus que les réactions du film sont particulièrement mitigées. Et je peux dire que Thomas m'a fait rire pendant la préparation. Ça va être du bon, ça va être du lourd, ça va être du costaud.
Youpi, allons-y.
Et heureusement, on ne fait pas une spéciale Masamune Shirou. Je te le répète.
Oui, on ne fait pas.
À cause de l'heure et que du sport, lui, il a pas mal de trucs. Hein, soit.
Ouais, mais c'est qu'à cause de ça. Hein.
Ouais,
parce
bon.
Que bon, Shirou, de toute façon, on a marre un peu à force. Donc.
Shirou.
Ouais, non, pas Shirou. Masamune Shirou. Le mangaka qui. Ben voilà, donc c'est. On va parler aujourd'hui du film Apple Seed qui est sorti mercredi dernier. C'est un film réalisé par Shinji Aramaki. Et c'est un film d'animation mélangeant la 3D et un processus qui s'appelle le cel shading. Qui est
non, le cel shading, c'est un mode de rendu 3D.
Oui,
oui c'est, ouais, c'est pas un mélange de 3D, c'est un mélange de plusieurs rendus
voilà,
3D.
Voilà, exactement. Donc on va raconter un petit peu l'histoire, une fois n'est pas coutume, avec un pitch supersonique.
C'est vrai que ça nous arrive rarement de raconter oui. Les scénars.
Au lendemain d'une troisième guerre mondiale, une cité utopique baptisée Olympus, oui, tous les noms sans exception évoquent des divinités grecques, ne me demandez pas pourquoi, et Olympus est la nouvelle superpuissance mondiale. Cette cité gouvernée par Gaïa, alors toi tu connais mieux la BD, alors arrête-moi si je dis des bêtises.
Ça va.
Cette cité est gouvernée par Gaïa, une intelligence artificielle chargée du bon déroulement de la vie entre les hommes et les bioroïdes. Donc les bioroïdes, ce sont une sorte de clones dépourvus de tares humaines que sont les émotions comme l'amour, la haine, etc. Et ils sont privés de fonctions reproductrices. L'héroïne Junan est amenée à Olympus pour renforcer les rangs de l'ESWAT, une armée d'élite se bastonnant à bord de robots de combat super confortables. Et on va arrêter là parce qu'on va en dire trop après.
Quoi, il y a la clim, l'ABS
aussi. Et l'intérieur en cuir.
Et surtout l'autoradio.
Je suis sûr qu'il adore.
Ouais. Ils écoutent FMR.
Ouverture centralisée.
Tout le reste.
Suspension.
J'ai failli faire une fausse pub et on l'a abandonné. Vas-y,
Xavier, est-ce que tu peux nous faire une petite bio de Masamune Shirou?
Masamune Shirou est un mangaka de renommée internationale. D'abord, c'est un pseudonyme, d'après une épée moyenâgeuse. Son véritable nom est Masanori Ota. Il est né en novembre 1961 à Kobe. Il vit actuellement à Yojo, qui est un peu plus au nord. Il fait partie des rares mangaka à dessiner tout seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'assistant, il dessine tout seul. Et il fait partie des mangaka, des dessinateurs, je vais dire, cultes, pour une raison toute simple, c'est que ses œuvres sont extrêmement rares. Il a produit comme un âne pendant à peu près 5-6 ans, et après sa production, c'est littéralement tari, mais graphiquement, ça reste absolument d'enfer.
Bref, et sur le fond surtout.
Shirou, à côté, est l'auteur, entre autres, de Black Magic, Dominion Tank Police, Apple Seed, Orion, Ghost in the Shell, Man Machine Interface, et il a fait 3 artbooks qui sont très connus, qui s'appellent Intron Depot, le 1, le 2 qui est consacré aux épées, Blades, et le 3 aux armes à feu, qui s'appelle Ballistic. Le principe, c'est des grosses pépées, des gros calibres, des gros engins. Il a aussi fait des illustrations médiéval fantasy pour Dragon Magazine Japan, et des character design pour des jeux vidéo, qu'on n'a pas eu en France, et d'ailleurs c'est bien dommage.
C'est dommage, on ne pourra pas vous en parler du coup.
Et surtout, sa grande spécificité, c'est son dessin en noir et blanc qui est très fouillé, très jeté et bourré de détails. Et après, c'est un coloriste absolument hors pair qui fait royalement peur.
Voilà, donc on va faire simple, en fait, c'est le mec qui fait plein de filles super bien fichues en bikini avec plein de robots partout et qui a créé la manga dont tu es inspiré. Le film Apple Seed dont on vous parle aujourd'hui. Alors Xavier,
oui,
je vais te parler, je vais te faire un petit cours là.
C'est ça.
À la question, comment reconnaître une bouse quand on en voit une au cinéma? En 5 points, Xavier.
Bah, je sais pas, en général, il y a marqué le film sous le titre. Chérie, fais-moi peur, le film. C'est au cas où vous auriez confondu avec la série des années 80. Je veux dire au niveau de la réalisation, mais là c'est un film d'animation, donc c'est pas le cas.
Non, c'est un peu plus simple, c'est que tu regardes où est-ce qu'il est diffusé. Si tu vois qu'il est diffusé que dans un multiplex, il n'y a pas photo, c'est comme le dernier Woody Allen, il faut pas y aller.
D'accord, ok.
Donc comment reconnaître une bouse quand on en voit une? En 5 points, Xavier, est-ce que tu peux me énumérer les petits numéros s'il te plaît?
Point numéro 1.
Vous repensez à la bande-annonce qui vous promettait plusieurs bons moments quand même, hein, mais ils sont tous déjà passés. Voilà.
Point numéro 2.
Vous en venez à regretter Koh-Lanta qui passe en même temps à la télé. Là aussi, on voit des mecs qui rament, mais au moins c'est drôle.
Point numéro 3.
On établit des théories sur ce qu'on louperait si on partait sur le champ aux toilettes.
Point numéro 4.
Au bout d'un moment, vous remarquez que votre voisin respire vachement fort du nez. C'est régulier, vous n'entendez plus que ça. Ça tombe bien d'ailleurs, vous n'avez pas eu vos 8 heures de sommeil la nuit dernière.
Point numéro 5.
C'est là que vous ne voyez plus que ce putain de panneau lumineux sorti de secours.
C'est peut-être ça le principe de la sortie technique dont nous a parlé l'attaché de presse du distributeur.
Donc c'est chiant, quand même.
Ah oui, alors là, ouais. Bon. Je me suis rarement autant ennuyé au cinéma, quand même.
Mais tu connais le dessin animé qui était sorti.
Non, mais t'as rien préparé. T'as rien préparé.
Après.
Parce que c'était pas mieux non plus.
Non, non, non. Non, parle pas JB, si t'as rien préparé, tu parles pas. Vas-y, continue.
Je me demande pourquoi je suis là, je pense que je me barre.
Voilà. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'on remarquera beaucoup de similitudes avec une autre adaptation japonaise qui a été faite en 3D d'une œuvre à succès qui s'appelait Final Fantasy, les créatures de l'esprit.
Ça n'est absolument pas un hasard.
Eh oui, on retrouve la même intro au milieu des ruines avec une fille à secourir, constituant dans les deux cas le meilleur moment du film.
Non, c'est aussi l'équipe qui a fait cette scène en question. c'est eux qui l'ont modélisé.
Et voilà. On a aussi dans les deux cas un chef militaire torturé, ça s'invente pas. Et on a aussi à chaque fois une héroïne détenant les clés d'un avenir concernant une cohabitation entre les humains et une autre race. Ça fait beaucoup de points communs finalement. Et là on se demande si Final Fantasy c'est pas quand même inspiré un peu de Shiro pour faire le scénario.
Oui, pas mal.
Voilà. Donc maintenant on va parler d'un petit point que je souhaiterais évoquer avec toi Xavier. Peut-être que tu n'es pas absolument pas d'accord avec moi. C'est quand même, enfin je trouve que ce film est quand même assez révélateur d'une certaine tendance du cinéma d'animation asiatique en ce moment. J'ai parlé de Final Fantasy tout à l'heure, on pourrait citer également Wonderful Days qui n'est pas japonais mais coréen. Mais tous ces films-là, ils misent sur le point fort, ce sont les effets numériques quand même. Hein. Le mélange de 3D pour Wonderful Days, cel shading et décors réalistes, enfin entre guillemets,
ouais,
en 3D.
C'était des maquettes au tout début du film. Hein.
Ouais.
Ça se voyait un peu trop d'ailleurs.
Et l'hyperréalisme pour Final Fantasy, franchement, moi je trouve que c'est tout ça, c'est le contraire de films à la personnalité marquée que sont, par exemple, pour rester dans le genre, les films de Morimoto, même les films de Oshii avec ses longs plans séquences, ou même Watanabe qui s'y fait des films qui sont pas immédiatement identifiables, mais il a une façon de jouer avec la bande son, avec la mise en scène qui, franchement, Aramaki là, le réalisateur d'Appleseed, il a encore des progrès à faire.
Il a des progrès qui sont assez flagrants là-dessus, on est d'accord. Tu me dis quand c'est à moi.
Ouais. Et on peut remarquer également une américanisation du récit. Quoi ? Qui c'est qui dort ?
Non, laisse tomber. Il fait son intéressant.
On a tous les poncifs de ce genre de film. On a les personnages vus et revus. Et là, d'ailleurs, Dunan, à mon sens, perd toute personnalité dans le film par rapport à la manga. Tu en parleras tout à l'heure en parlant des personnages. Mais en tout cas, travail d'adaptation, à mon sens, c'est borné à reprendre des dialogues de Shiro sans vraiment les comprendre. Et ils sont très vite expédiés et ça donne quand même une impression que la touche chiresque, on va dire, a été rajoutée sur une trame bateau sans aucun lien avec le reste. Enfin, moi, c'est un petit côté, tiens, on te plaque ça, on te plaque. Ah, en fait, c'était du Shiro. Vite, on va mettre des dialogues de Shiro par-dessus et ça n'a rien à voir avec le reste. Enfin, voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi.
Alors, moi, mon avis personnel. D'abord, Shiro, je l'ai dit, est un auteur mythique. Il a une production qui est très rare, mais surtout, il est très verbeux. Il est bourre de détails techniques, littéralement, ses bandes dessinées. Ghost in the Shell et Appleseed sont les BD les plus chiantes à lire si on ne connaît pas un minimum de géostratégie, d'informatique, de mythologie gréco-latine et tout. Il montre qu'il a un savoir encyclopédique à des fois jusque au dégoût du lecteur. Il faut s'accrocher pour le lire et là on y arrive.
Et oui, d'ailleurs, il faut vraiment se demander si pour bien adapter Shiro au cinéma, est-ce qu'il faut pas s'appeler Mamoru Oshii finalement ?
Mamoru Oshii n'a pas adapté Ghost in the Shell, il l'a plus exactement assimilé. La seule adaptation d'œuvre de Masamune Shiro que je connaisse de ces mangas qui a été bien faite, il n'y en a eu qu'une, c'est une série télé, il s'agit de Dominion Tank Police, parce que c'était un gros délire et que justement il n'y avait pas toutes les pesanteurs référentielles que met d'habitude Shiro dans ses bandes dessinées, là c'était que du délire.
Pat Labor, c'est de lui je crois, non ?
Non,
c'est de ouf.
Non, t'as pas préparé.
Et sinon Xavier...
Mais j'aime pas les mangas, c'est clair.
Excuse-moi Xavier de revenir toujours à Oshii, mais on en revient toujours aux mêmes références, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on ne peut finalement adapter Shiro sans nourrir comme lui une passion pour l'univers guerrier, les tanks, l'entraînement au combat, la hiérarchie militaire, etc. Les corps cybernétiques, la sensuelle cohabitation, on va dire, entre la chaleur robotique, pour moi la scène où il y a Kusanagi dans le premier Ghost in the Shell qui essaie d'enlever le capot du robot combat à la fin, c'est comme une scène de striptease finalement.
Oui, bon, d'accord, ok, soit.
Et enfin, une longue. Il faut développer quand même une longue passion pour les longues parlotes dissertant sur la politique, sur la robotique, gérée par les intelligences artificielles et les questions d'humains qui ne le sont plus. Oui, c'est vrai que si c'est bien mis en scène, finalement, c'est pas du tout chiant.
Non, mais non. Surtout, c'est Apple Seed est absolument inadaptable parce que c'est en fait le cri d'amour, je dirais, de Masamune Shirow pour un bouquin d'initiation à la logique formelle qui est écrit par Douglas Hofstadter. Vous savez, le fils du prix Nobel de physique de 1948, où en fait, il enseigne à ce que c'est que sinon, la gestion des mathématiques et tout le reste. Non, je vais arrêter là. Je vais arrêter sur les dialogues philosophiques de Shirow. Ils sont respectés dans le film, mais ils sont très mal choisis. Et très mal retaillé. Ils auraient en fait gagné finalement à être abrégés et à être réécrits parce qu'ils ne correspondent absolument pas à une rythmique cinéma, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, d'un autre côté, moi je trouve particulièrement triste finalement qu'ils ont passé effectivement des dialogues de Shirow sans les comprendre et qu'après ils se sont dit « Ah mais attends, là il est super chiant, donc on va prendre des libertés sur le script. » C'est-à-dire, ils sont sortis du premier tome, ils ont mis une histoire originale, mais les scénaristes sont littéralement perdus par l'intrigue qui se délite littéralement vite, par les notions philosophiques de Shirow, ce qui donne une brutale impression de manque d'épaisseur des personnages, de l'intrigue, on ne sait plus où on est. On est ailleurs, et par les personnages qui du coup sont trop consistants, puisque on leur a laissé montrer qu'ils ont toute une histoire, tout un univers, qu'il y a toute une philosophie derrière, c'est loin d'être de la bête, je vais dire, je t'envoie là pour fracasser du méchant, ça n'a rien à voir. Et là, ben, tout d'un coup, on a des ficelles qui sont tellement grosses pour les personnages qu'on a l'impression d'avoir un Deus Ex Machina, et pas qu'un seul. Deus ex machina, c'est une très jolie expression. Et là, c'est du latin et pas du grec. Entre les deux, les dieux sont justement un poil différents. Si vous ne connaissez pas ça, déjà, vous aurez du mal à comprendre Apple Seed. Et après, eh ben, vous serez un peu largué. Les personnages rendus en cel shading, c'est bien joli, mais la gestuelle, la gestion de la caméra est particulièrement maladroite pour les longues scènes de dialogue. Faiblesse principale du film, pour pas dire que c'est la critique qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que c'est trop verbeux pour une gestion aussi ridicule du film. Bref, c'est une... C'est un film qui a été produit visiblement trop vite par quelqu'un qui n'a absolument pas lu la manga. Et là-dessus, eh ben, c'est un peu dommage. Après, les musiques sont plutôt bien rythmées. Vous entendez... Non, c'est pas là. C'est l'autre lecteur. Vous entendez Boom Boom Satellites qui, théoriquement, a fait le fond. En fait, pas du tout. C'est un ex de Boom Boom Satellites qui a fait la bande originale. On y retrouve aussi Kenichi dans la bande-son, Paul Wackenfold, Atom, Craig et Carl Craig, Basman Jax, qu'on a mis en intro.
Ryuichi Sakamoto...
Exact, ouais, mais le morceau de Ryuichi Sakamoto, je te mets au défi de te douter que c'est lui quand même. Enfin, bref, peu de choses auraient suffi pour que le film soit crédible aux yeux des fans de la bande dessinée, en tout cas plus que l'OAV. Je rappelle que les studios Gainax, oui, les mythiques studios Gainax, ont fait une adaptation particulièrement nulle et maladroite en 1989, qui est sortie direct en vidéo, et que finalement, ben, hey, hop, zou. Avec un réalisateur qui sait manier les émotions, les flingues, les colombes et les face-à-face dans les églises, peut-être que le deuxième tome sera réussi. Et là, ça reste à voir.
Une contestation vient de la part de JB.
Oui, mais JB, il n'a pas vu le film, il n'a rien préparé.
Si, l'OAV, il a vu.
Si, moi, j'avais vu les OAV il y a pas mal de temps. Je trouvais que c'était correct. Je ne dis pas que c'était des chefs-d'œuvre. De toute façon, je n'aime pas les mangas en général.
L'OAV respecte effectivement l'histoire à BD puisqu'il s'intercale entre le premier et le deuxième tome japonais, entre le deuxième et le troisième tome français. Et ça fait une histoire complémentaire. Là, ils ont complètement réécrit le premier tome et ça ne marche pas.
Bon, alors, finalement, c'est une merde ou une bouse alors ?
Ça aurait pu être pire.
Ah, donc.
Une merde ou une bouse ? Qu'est-ce qui peut être pire qu'une merde ou une bouse ?
Une daube ?
Enfin bon, bref, tout ça pour dire que la meilleure adaptation à ce sens pour tout le monde, c'est Ghost in the Shell, à la fois le premier film, le deuxième film, Innocence, la série qui s'intercale entre les deux, Ghost in the Shell, Standalone Complex, alors que c'est une adaptation très libre, où on reprend les personnages et on fait une adaptation à part. Et quant à la 3D absolument affreuse du film Apple Seed, prenez Ghost in the Shell, la bande dessinée, le deuxième tome, et regardez-la. Et ben vous verrez que Shirow lui-même n'est pas un dieu du dessin, il a fait une horreur absolument immonde. Le dessin est encore plus moche. Oui, mais c'était en 91. Bon, alors se dire qu'ils ont gardé le graphisme de 91, tu vois, alors qu'on est en 2005, c'est quand même royalement dommage. Ça va les pieds derrière.
Mais non, Innocence, c'est vachement bien. Et lui, il dit que c'est de la daube.
Ah ouais, moi, c'est un des derniers mangaka que j'ai maté, que je me suis royalement fait chier.
Non, un mangaka, c'est un auteur de manga.
Ouais,
c'est
excuse-moi. Un manga, c'est...
JB n'a pas préparé.
En date, que j'ai maté et que j'ai vraiment eu les boules d'avoir payé 8€ la place pour ça. Il se passe rien à part... Le côté esthétique. Pour moi, un film, ce n'est pas que l'esthétique.
Attends, t'as une profondeur intellectuelle dedans que tu retrouves jamais ailleurs.
Bouf, tu je rigole.
Attends, toutes les citations qu'il y a, l'histoire du golem, il faut que tu ailles arrêter.
Tout ça pour vous dire, donc, Apple City, c'est surtout l'histoire d'un nouvel ordre mondial où une cité essaie de prendre les destinées de la Terre, de prendre la place des Nations Unies en étant indépendant. Et ça, eh ben, c'est très très mal géré dans le film, puisqu'on dirait que c'est une principauté, vous savez, au bord, accrochée sur un rocher. Et ça, c'est bien dommage, c'est bien loupé, parce que la première musique qui vous vient immédiatement à l'esprit quand vous lisez Apple Seed, c'est ça. Et il est sorti le compte CD. La première musique donc qui vous vient à l'idée tout de suite, c'est ça. Ministry, un nouvel ordre mondial, NWO. Écoutez bien. Vous allez entendre George Bush, père, annoncer lors d'un discours devant le Congrès en mars de 91. Non, c'était après que l'Irak est après, excuse-moi, que le Koweït ait été libéré. Nous cherchons à savoir où est le bien, où est le mal, qui a raison, qui a tort. Un nouvel ordre mondial. A new world order. Un album donc qui était sorti en 91, si je me souviens bien, le clip, le clip a été sorti, a été tourné, excuse-moi, dans les émeutes de Los Angeles.
L'album date de 92 exactement, de juillet 92.
Ouais. D'accord, tu étais là quand tu l'as acheté.
Non, mais je rentrais de Norvège et ça me faisait un tabac là-bas et c'était pas encore connu ici.
En tout cas, donc c'était un, c'est vraiment la disparition du bloc de l'Est et surtout d'un président particulièrement con à souhait. Tu me disais tout à l'heure donc que leur nouvel album était assez rigolo.
Oui, parce que toutes les chansons commencent par la lettre W. Je ne sais pas à quoi ça fait allusion, mais je vous laisse deviner.
D'accord, du sport.
Ouais, on va continuer avec un petit peu de comics là. Bah, y en a marre des mangas là. On a fait que causer de mangas pendant toutes les missions. Merde. Allez.
Bon, d'accord. Pack. Ok, je vais essayer de te distraire.
Retour. Tu me sauves. Retour à des valeurs traditionnelles, merde.
Tiens, du sport. Le data book d'Apple, si tu le liras et après tu me diras si ça te donne pas envie de lire le bouquin.
Alors, okay, non, c'est pas mon habitude de parler de ça.
Tu peux
utiliser
le data book pour te caler ton micro.
Non, c'est bon. Ça suffira. Non. Le comic book, donc, c'est sorti par Mad Movie. On sait que c'est des furieux et des vrais fans devant l'éternel en ce qui concerne le ciné, les DVD, toutes ces formes-là. L'âge d'animation.
C'est édité par Mad Movies, parce
qu'en fait. C'est édité par Mad Movies.
Ils ont arrêté.
Ouais. C'est un journal qui était déjà sorti il y a, je crois, une dizaine d'années, mais qui n'avait pas du tout marché.
Non, hein, c'était en 99 et ils ont arrêté en 2003.
Ouais, voilà. Il y a 5 ans, ça n'avait pas trop marché. À lire le premier numéro, je comprends un petit peu pourquoi, parce que ça s'adresse quand même à des gens qui sont assez à fond dedans, on va dire. Ça s'adresse
furieux,
pas au simple commun des mortels qui a envie d'apprendre comme ça, sous le coude, vite fait, quelques petites infos. Non, c'est quand même vachement fouillé. Les gens qui écrivent là-dedans savent de quoi ils parlent. Il n'y a pas de problème. L'intéressant se situe peut-être ailleurs, dans les nombreuses interviews qu'il y a, et interviews concernant des dessinateurs qui officient actuellement dans tout ce monde qu'est Marvel, DC Comics et tout ça. On parle des super-héros, bien entendu, avec les X-Men et Wolverine en couverture, avec quelques articles intéressants de fond, genre peut-on lire encore les X-Men parce que bah il y en a eu trop, parce que ça a été le déferlement à une époque, on parle de plus de 200 mutants existants dans l'univers des X-Men, donc les gens ne s'y trouvent plus, c'est trop le bordel, et il y en a qui deviennent méchants, ils redeviennent gentils, mais on comprend plus rien, ça va pas, enfin bon, mais
c'est le
article
Dallas,
de fond comme ça. Il y a également 16 pages de BD inédites de Mike Mignola.
Ouais.
Hellboy, bon, on peut passer. Yes. Hein. Moi, franchement, quoi. Bon, franchement, je vois pas l'intérêt. C'est pas tellement intéressant, je trouve. C'est tout. Par contre, il y a un article qui est très intéressant et qui concerne, eh bien, la France contre les comics et qui revient un petit peu sur les glorieuses années d'après-guerre où, dans un effort d'élan national, il fallait restaurer la foi patriotique, le renouveau, fallait reconstruire. Hein, donc, il fallait reconstruire à partir de choses qui venaient de notre sol, bien entendu.
Et la loi sur la jeunesse.
Hein. La loi sur la jeunesse,
49,
votée
hein.
En 40. Ouais, il y a eu des débats qui ont commencé 3 ans après la guerre, c'est-à-dire en 48, et ça a donné lieu à cette fameuse loi sur la jeunesse en 49, qui était destinée à contrer cette invasion de comics américains qu'il y avait eu. Normal, hein, ils étaient venus nous délivrer, ils ont ramené leur lecture avec eux, normal, non?
Et puis, non, ça datait de bien avant, de l'Empire Opéra Mundi dans les années 30.
Hein. Oui, je plaisante, bien entendu. Ouais. Et donc, c'est toi qui a permis justement à plein de comics de pas avoir le jour ou de pas être édité, transformé, traduit. Pour nous, les petits Français. Mais ça revient aussi sur les émois de certains intellectuels très connus en France qui s'élevaient justement contre les comics. Et certains n'ont pas des moindres, tels que Jean-Paul Sartre qui écrivait carrément dans les temps modernes contre les comics. Voilà, tout ça donc dans ce magazine qui s'appelle Comic Book. Alors il n'y a pas vraiment de... Je ne sais même pas si c'est un mensuel, un bimestriel.
Non, apparemment c'est un annuel. Hein.
Ça a l'air d'être un annuel. Là, il y a marqué été numéro 1, été. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres où il y aura la collection été et la collection hiver. Tu sais, c'est comme les trucs de mode. Hein. Non, tu crois pas?
Non.
Ok. Eh bien, vite fait, non, pas vite fait quand même. On va respecter un moment de silence à la mémoire d'une chaîne de télé qui a disparu. Et... C'était mercredi 31 à minuit. Match TV. A vu ses programmes s'arrêter. Un petit moment de silence, s'il vous plaît.
Morph.
Bah ça ira bien comme ça, allez, c'est bon. Pas trop déconner quand même. À la rentrée des télés, j'ai pas envie de le faire maintenant parce qu'on est vachement à la bourre, donc c'est pas la peine. Hein, ok. Oui. Ça s'annonce pourtant musclé. Hein. Hein, ça s'annonce musclé, quoi. Combat entre la chaîne publique et les chaînes publiques et les chaînes privées. Major TF1, c'est à coup de série américaine qu'on va se taper sur la gueule. Sauf les coups, il y a des matchs de foot concernant l'équipe de France. Là, évidemment, le combat est gagné d'avance, il n'y a pas de problème. Hein, on essaye de sauver les meubles. Mais quand même, ça peut donner lieu à des soirées assez intéressantes. Ce qui est un petit peu con, c'est que le mercredi, il va falloir faire un choix.
Ah oui,
magnétoscope ou DVD player, enregistreur des BD, parce que entre la 1 et la 2, il va falloir choisir. Hein.
Ah oui.
Ah ouais, c'est comme ça. Tant pis, tant pis. Alors, il y a quelques nouvelles chaînes quand même. Je voulais vous en parler, je vais le mettre de côté parce que c'est des nouvelles chaînes qui sont apparues sur le câble et sur le satellite. Il y en a une ou deux qui sont pas mal, dont la Sci-Fi Channel qui vient d'être.
Enfin
qui vient. Science Fiction TV qui a produit nombre de chaînes de science-fiction, nombre de séries de science-fiction, vachement connues, Babylon 5, enfin vraiment du haut de gamme, hein, tout le haut de gamme, attention, hein, des Sci-Fi Channel quand même. Alors, du tout nouveau, du tout beau, Desperate Housewife, c'est bien entendu la couverture partout. Vous avez soit Terry Hatcher, soit Felicity Huffman, soit Eva Longoria, mais c'est elle qu'on connaît le plus parce que elle est maquée avec un basketteur français. Le meilleur en plus, ça, hein, tu
oui,
vois. Alors,
oui.
Histoire, quoi, hein, tu vois. Marcia Cross et Nicolette Sheridan. Pourtant, Nicolette Sheridan, vous la connaissez, ça a été une salope, mais une salope.
Dans
Côte Ouest, pendant plus de 8 ans, elle a pas arrêté de faire à fond, mais vraiment à fond. Et là, elle récidive un petit peu dans Desperate Housewives. Marcia Cross, on la connaît parce que...
Melrose Place, hein.
Melrose Place, bien entendu. Seinfeld aussi, hein, ce qui est un gage de qualité, n'est-ce pas? Eva Longoria, elle a aussi joué dans Beverly Hills. Mais enfin bon, hein, à l'époque, hein, voilà, hein, c'est tout. Felicity Huffman, elle c'est elle que je préfère au niveau, niveau actrice, quoi. C'est des 5. Felicity Huffman qui a fait des rôles dans X-Files et dans West Wing. Bon, West Wing, elle est excellente, hein, vraiment, franchement, quoi. Et il y a Terry Hatcher, Lois Lane, les aventures de Superman. Et tout ça, donc, ça se retrouve dans Desperate Housewives. C'est la première grosse sortie, on va dire, de la saison. C'est sur Canal+. La première saison a fait un carton absolu sur ABC aux États-Unis, 22 millions. Ils ont dépassé Lost. Ils ont carrément niqué la tête à Lost, attention. Hein. Ah ouais, encore plus fort, quoi.
Attends, Lost, c'est pas produit par ABC?
Ils ont fait plus d'audience avec Desperate Housewives que avec Lost, tu vois, genre quoi, tu vois, hein. Donc la première saison est diffusée sur Canal. On va un petit peu regretter parce que c'est diffusé tous les jeudis soirs à partir de 20h55. On va regretter que ils se décident à faire un petit peu de la plâtrée comme ça, comme le font les autres chaînes, à savoir des épisodes à la file. Là, il va y en avoir 3 à la file quand même. C'est merci les gars, c'est sympa, c'est vraiment gentil, hein, de 3 épisodes à la fin.
Tu sais, ce qu'il a dit, mais eux, lors de la rentrée de sa chaîne.
Ouais, non, laisse
en route vers la croissance.
Ouais, c'est ça.
Et l'inflation, là.
C'est pas avec des conneries comme ça qu'il va y arriver, ça c'est clair. C'est jeudi donc, hein, 3 épisodes. Sinon, d'autres séries. Alors, il y en a une qui a l'air vraiment excellente. Ça va être du Kitschos dans quelques années. Je sens que c'est normal. En fait, c'est le mec qui avait déjà fait une autre série policière dans les années 80 qui avait assez mal marché. Hein, qui s'appelait Booker, interprété par un certain William Shatner.
Hooker.
Échappé de 21
Booker,
Jump Street.
Booker, attention.
Hooker,
Booker, c'était l'autre. qui était vraiment bien faf et tout. Vraiment un truc. Et déjà produite par Aaron Spelling. Oui. Ah, super. C'est quand même du lot. Hein. Toutes les grosses séries Charmed. Oh là là. Des décennies. Et il avait produit, s'est dit, on pourrait faire une petite policière de nouveau et tout, même si ça n'avait pas marché dans les années 80, on va essayer de refaire une petite policière. Et ça s'est appelé 10-8 Officers on Duty. Alors déjà, le titre est excellent parce que on se dit, enfin, ça va castagner un petit peu. Et ça a été traduit par Sheriff's LA parce que l'action est située sur la côte ouest en Californie, à Los Angeles. Il y a un accent un petit peu hispanique qui est donné au niveau des acteurs. Et au niveau de l'ambiance, hein, c'est normal, eh, hein, c'est juste à côté de la Mexico. Et avec une interprétation qui peut valoir son pesant de cacahuètes, à mon avis, hein, quand c'est dirigé, enfin quand c'est produit par Harlan Spelling, parce qu'on y retrouve Danny Nucci, qui est un habitué des bonnes séries policières, on va dire. Il a fait une apparition dans Les Sopranos, on l'a vu également dans NYPD, enfin bon, ça va. Miguel Sandoval, qu'on connaît parce que bah, c'est le pote à Jessica Garner dans Alias, Miguel Sandoval. Et Jamie Luner, qui est une de mes favorites, hein. J'ai flashé dessus quand j'ai regardé cette mini-série excellente qui est Savannah. Ne rigolez pas. Et j'étais un petit peu plus déçu quand il a pris la suite d'Ali Walker dans Profiler. Hein, ah, oui. Ali Walker, elle se fait kidnapper, et puis bon... Alors Jack, il sait plus ce qu'il fout, et puis il se fait niquer la tête, mais en fait c'était pas le vrai, et puis ils en recherchent un. Et puis bon, en fait c'était vraiment le motif pour que Ali Walker, qui avait déjà passé 3 ans sur la saison, alors, sur la série, elle en a marre, elle a fait le tour du truc, donc bah, on l'a fait disparaître.
Donc elle est en prendre une nouvelle alors.
Eh ben, elle est enlevée, on la retrouve, mais elle rompt tout contact, donc elle se tire, on ne sait pas où elle se tire, et bon, voilà, hein, y a encore quelques petits contacts réguliers, mais enfin, on n'en sait pas plus, et c'est Jamie Luner qui prend sa place. Et là, elle est pas mal, elle est assez convaincante quand même dans ce rôle de profiler, et on retrouve également dans cette série, Sheriff LA, Ernie Hudson, qui est le Leo Glynn, le directeur de la prison dans Oz, le gros black là. Tout ça dans Sheriff LA. Une série de 15 épisodes seulement, parce que bon, bah, ils ont vu que ça marchait pas du tout, donc il y a même pas une première saison, ça s'est arrêté au bout de 15 épisodes. Aaron Spelling a dit, je largue, laisse tomber, c'est pas la peine. Mais pour notre bonne chance, c'est diffusé par cette nouvelle chaîne de la TNT, W9, tous les mardis à 20h50. Sinon, de la rediff, enfin, c'est pas la rediff, non. C'est actualisation d'une série déjà ancienne. Et alors là, moi, je suis quand même assez scié parce que bon, quand je suis un petit peu replongé dans mes incunables concernant les séries télé, je me suis rendu compte que ben, il n'y avait pas tellement d'épisodes que ça de L'Homme à l'Orchidée. Et pourtant, tu connais L'Homme à l'Orchidée, bien entendu.
Oui, bien sûr.
Bien entendu, tu connais L'Homme à l'Orchidée.
Pas du tout.
Ah, pas du tout. Oh. Tu connais L'Homme à l'Orchidée.
Je connais L'Homme à la Rose et L'Homme au
sandwich.
C'est un petit peu un dérivé, on va dire. L'Homme à l'Orchidée, Nero Wolfe, bien entendu. Nero Wolfe, qui était interprété dans la première série par William Conrad, le regretté William Conrad, hein, qui a fait... L'autre rôle.
Je croyais qu'il parlait de le regretté Christophe Lambert dans Beowulf.
Non.
C'est pas la même chose.
William Conrad, donc, le gros là, avec la barbe et tout, le mec qui a du mal à se déplacer et tout, c'est pas avec lui qu'il faut faire des scènes d'action parce que lui, c'est plutôt
de la réflexion.
Armchair action, tu vois, c'est-à-dire dans le fauteuil, réflexion et tout, puis voilà, l'action. Et en fait, bon, ben, dans la série originale, il est pas tout seul, hein, bien entendu, hein, c'est comme Perry Mason, hein, il y a un mec qui court partout alors que lui. Il passe son temps entre l'hôtel, le tribunal, comme ça, c'est pas trop fatigant, c'est cool et tout. En plus, on prend le taxi, donc ça va, ça le fait bien. Et l'autre, il se casse le cul, William Cat pour Perry Mason. Enfin bon, c'est une autre histoire. Là, quand même, dans la série originelle. On voit William Conrad, bien sûr, Nero Wolfe, mais surtout parce que bon, c'est un amateur de bonne chair, qui aime bien vivre et tout. Alors, pas mal des épisodes sont consacrés à l'horticulture avec son collègue horticulteur qui s'appelle Theodore Rothman. Ouais, son cuisinier parce qu'il aime bien bouffer, donc il a carrément même un cuisinier, tu vois, à domicile comme ça. Ça rappelle un petit peu l'univers du détective de Montalban, tu sais, l'espagnol avec le détective qui aime bien manger. Pépé Carvalho, voilà, c'est un petit peu la même chose, quoi, tu vois. Quand ils aiment bien manger, quand ils s'arrêtent pour bouffer, c'est même pas la peine de lui causer, de toute façon. Te cause pas, te dis rien et tout, laisse tomber. Alors l'enquête, ça avance et tout. Non, là, tu mets les andouillettes. Et donc, ça, c'est un petit peu L'Homme à l'Orchidée, avec le mec qui cavale, bien entendu, et là, interprété magistralement, Archie Goodwin, vous le rappelez, bah, c'est Lee Horsley. Ouais, Lee Horsley, la moustache et tout. Hein, et la petite permanente comme ça qui ondule. Si.
C'est Matthew Stone.
Voilà, Matthew Stone. Il a tout vu. Tout ça dans L'Homme à l'Orchidée. Et en fait, il n'y a eu que 14 épisodes qui ont été tournés. 14 épisodes. À l'époque, c'était sorti. Où est-ce que je l'ai mis? Sur NBC en 81, 14 épisodes seulement. Et là, y a une autre chaîne qui s'est dit, ce serait pas mal d'essayer de ressusciter le truc parce que bon, il y avait quand même une espèce de statut de série culte et de petit truc culte, alors qu'il y a eu très peu d'épisodes de tournée. Et donc, on nous ressort un nouveau Nero Wolf, ça date de 2001 quand même, avec Maury Chaykin dans le rôle principal et Timothy Hutton dans le rôle du mec qui court partout. C'est réalisé par Bill Duke. Là, c'est pas des formats habituels, c'est 52 minutes de série. Là, c'est carrément téléfilm, hein, 1h40. C'est diffusé mercredi prochain sur Paris Première après 20h50. Et Nero Wolf, bon, c'est le personnage d'une série de romans qui ont été écrits par un mec qui s'appelle Rex Stout. Rex Stout, qui d'ailleurs détestait la télé, il avait horreur de ça et il a toujours refusé de son vivant que ses écrits soient adaptés à la télé. Il a fallu attendre qu'il crève pour qu'il puisse tourner justement la série Nero Wolf à la télé. Et je crois que j'ai carrément tout dit. Non, je vous ai laissé un petit peu le meilleur pour la fin, carrément, avec
le messager.
Il n'y a pas de nanar de la semaine, il n'y a rien. Il y a le messager des ténèbres, ça peut être la bonne surprise de la rentrée en ce qui concerne Canal Jimmy. The Collector, c'est une série canadienne. Et tu l'as dit au début, tu l'as dit en début d'émission, les Canadiens, c'est les meilleurs Américains du monde. Il n'y a pas de problème, Wolverine canadien, Mike Myers canadien, Pamela Anderson canadienne. Pamela Anderson canadienne. Tous les meilleurs Américains, ce sont des Canadiens. Là, c'est une série qui a été tournée dans les mêmes endroits que X-Files, où beaucoup de séries se tournent. Hein, c'est entre Vancouver et Toronto au Canada, parce que ça coûte vachement moins cher qu'aux États-Unis. Et en plus, ils ont tout pigé.
Et du sport, j'ai oublié de dire un truc rigolo, c'est qu'il y a les accords entre le Canada et l'Europe. Donc en fait, le cinéma européen paie pour des séries américaines qui sont tournées à Toronto. Donc cherchez pas à comprendre, c'est des montages complètement débiles.
Ouais, tant qu'ils nous mettent pas les doublages québécois, c'est bon. D'accord.
Non, on est d'accord. Pas des doublages québécois.
Alors ça s'appelle donc The Collector. Le pitch a l'air vraiment intéressant quand même. C'est Morgan, un moine du 14e siècle, qui a fait un pacte avec le diable pour sauver la femme qu'il aimait. Et 6 siècles plus tard, il revient sur Terre avec un but. Il doit collecter les âmes des mortels pour son patron. Et le diable accepte quand même de lui donner 48 heures pour tenter de sauver chaque client avant de l'envoyer en enfer. Le pitch est pas mal, ça peut être intéressant, il faut voir comment c'est développé. Enfin bon, on peut leur faire confiance, il y a eu 14 épisodes tournés dans la première saison qu'on verra donc sur Canal Jimmy. Ça démarre mardi à partir de 20h55. Avec que des inconnus, je vous assure. Si l'acteur principal qui s'appelle, je m'en rappelle déjà plus, a déjà tourné quelques apparitions dans Stargate et dans Stargate Atlantis, qui est la série dérivée Atlantis. Si, je t'assure,
C'est d'habitude.
Voilà, donc à regarder, à jeter un œil quand même sur cette série canadienne qui s'appelle The Collector. Et voilà.
Et ben d'accord. Eh ben Thomas, cette émission de rentrée était un peu catastrophique. Je me souvenais plus pourquoi je faisais plus venir JB. C'est parce qu'à chaque fois il te coupe la parole, il te détruit complètement la chronique. Voilà, tu sais plus quoi faire.
L'acharnement, franchement, il y a.
Ah. Non, c'est parce qu'en fait il était incapable de préparer un seul sujet. Il est bon que pour démonter. Non, mais il était bon qu'à démonter les sujets des autres. Donc je n'ai pas rien. Oui. Bon, par contre, c'est clair, t'as de la bonne zig. Y a pas à dire. Voilà. Salutations d'ailleurs au regretté Flappy.
Allez, on repart dans l'émission.
Non, d'accord. Ok. Thomas, cette émission, pour ceux qui ont loupé le début, est-ce que tu peux faire le résumé s'il te plaît?
Alors, ce qui s'est passé dans l'émission, c'était le grand retour de JB déjà, parmi nous. Et puis, pas grand chose à retenir de cette émission, sauf qu'elle était chaotique, bordel ambiant, accompagné de cacahuètes. Et on a eu également une baston entre Xavier Dusport sur le début de l'invasion Comic Books en France.
Ouais,
et un débordement de 27 minutes.
On est loin du record précédent qui était de 38. Ceci dit, si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez la réécouter sur le net, sur le site de la radio à partir de mardi. Donc sur www.radio-fmr.net. Et là-dessus, on peut même carrément s'y abonner. Et puis n'hésitez pas à voter pour nous pour les podcasts d'or. Voilà, ceci dit. Je cède la place tout de suite, c'est du sport avec son magazine.
À samedi prochain, bon week-end.